Jean-Marie Guyot. Esquisse d'une morale sans obligation ni sanction. Livre 3. Chapitre 4. Critique de la sanction religieuse et métaphysique. Premier point. Sanction religieuse. Plus nous avançons dans cette critique, plus la sanction proprement dite, c'est-à-dire la pathologie morale, nous apparaît comme une sorte de garde-fou, ayant son utilité là seulement où il y a un chemin tracé et quelqu'un qui y marche. Au-delà de la vie, dans l'éternel précipice, les garde-fous deviennent tout à fait superflus. Une fois terminée l'épreuve de l'existence, il n'y a plus à y revenir, si ce n'est bien entendu pour en tirer des expériences et de sages enseignements, au cas où il nous faudrait recommencer de nouvelles épreuves. Telle n'est pas la pensée des principales religions humaines. Les religions, en tant qu'elles commandent une certaine règle de conduite, l'obéissance à certains rites, la foi à tel ou tel dogme, ont toutes besoin d'une sanction pour confirmer leur commandement. Elles s'accordent toutes à invoquer la sanction la plus redoutable qui se puisse imaginer. À ceux qui ont violé leurs ordres d'une manière ou d'une autre, elles promettent des peines éternelles et font des menaces qui dépassent ce que l'imagination de l'homme le plus furieux peut rêver d'infliger à son plus mortel ennemi. Par là, comme sur beaucoup d'autres points, les religions sont en plein désaccord avec l'esprit de notre temps. Mais il est étrange de penser qu'elles sont suivies encore par une foule de philosophes et de métaphysiciens. Se figurant Dieu comme la plus terrible des puissances, on en conclut que, lorsqu'il est irrité, il doit infliger le plus terrible des châtiments. On oublie que Dieu, ce suprême idéal, devrait être tout simplement incapable de faire du mal à personne, à plus forte raison de rendre le mal pour le mal. Précisément parce que Dieu est conçu comme le maximum de puissance, il pourrait n'infliger que le minimum de peine, car plus est grande la force dont on dispose, moins on a besoin d'en dépenser pour obtenir un effet donné. Comme en outre, on voit en lui la suprême bonté, il est impossible de se le représenter, infligeant même ce minimum de peine. Il faut bien qu'au moins le Père Céleste ait cette supériorité sur les pères d'ici-bas de ne point fouetter ses enfants. Enfin, comme il est par hypothèse la souveraine intelligence, nous ne pouvons pas croire qu'il fasse rien sans raison. Or, pour quelle raison ferait-il souffrir un coupable ? Dieu est au-dessus de tout outrage et n'a pas à se défendre. Il n'a donc pas à frapper. Les religions sont toujours portées à se représenter l'homme méchant, comme un titan engageant une lutte contre Dieu même. Jupiter, une fois vainqueur, il est tout naturel qu'il prenne désormais ses sûretés et écrase son adversaire sous une montagne. Mais c'est se faire de Dieu une étrange idée que de se figurer qu'il pourrait ainsi lutter matériellement avec les coupables sans perdre de sa majesté et de sa sainteté. Du moment où la loi morale personnifiée entreprend ainsi une lutte physique avec les coupables, elle perd précisément son caractère de loi. Elle s'abaisse jusqu'à eux. Elle déchoit. Un dieu ne peut pas lutter avec un homme. Il s'expose à être terrassé, comme l'ange par Jacob. Ou Dieu, cette loi vivante, est la toute-puissance, et alors nous ne pouvons pas véritablement l'offenser, mais aussi il ne doit pas nous punir. Ou nous pouvons réellement l'offenser, mais alors nous pouvons quelque chose sur lui. Il n'est pas la toute-puissance, il n'est pas l'absolu, il n'est pas Dieu. Les fondateurs des religions se sont imaginés que la loi la plus sainte devait être la loi la plus forte. C'est absolument le contraire. L'idée de force se résout logiquement dans le rapport d'une puissance à une résistance. Toute force physique est donc moralement une faiblesse. Étrange conception et bien anthropomorphique que de supposer Dieu ayant une geôle ou une géhenne et pour serviteur et geôlier le démon. En somme, le démon n'est pas plus responsable de l'enfer que le bourreau ne l'est des instruments du supplice qu'on lui remet entre les mains. Il peut se trouver même assez à plaindre de la besogne qu'on lui fait accomplir. La vraie responsabilité passe par-dessus sa tête. Il n'est que l'exécuteur des hautes œuvres divines. Et un philosophe pourrait soutenir, non sans vraisemblance, que le vrai démon, ici, c'est Dieu. Si une loi humaine, si une loi civile, ne peut se passer de sanctions physiques, c'est, nous l'avons vu, en tant qu'elle est civile et humaine. Il n'en est pas ainsi de la loi morale, qui est supposée ne protéger qu'un principe, et qu'on se représente comme immuable, éternel, impassible en quelque sorte. On ne peut être passible devant une loi impassible. La force ne pouvant rien contre elle, elle n'a pas besoin de lui répondre par la force. Celui qui croit avoir renversé la loi morale doit la retrouver toujours debout en face de lui, comme Hercule voyait sans cesse se relever sous son étreinte le géant qu'il s'imaginait avoir terrassé pour jamais. Être éternel, voilà la seule vengeance possible du bien à l'égard de ceux qui le violent. Si Dieu avait créé des volontés d'une nature assez perverse pour lui être indéfiniment contraire, il serait réduit en face d'elle à l'impuissance. Il ne pourrait que les plaindre et se plaindre lui-même de les avoir faites. Son devoir ne serait pas de les frapper, mais d'alléger le plus possible leur malheur, de se montrer d'autant plus doux et meilleur qu'elle serait pire. Les damnés, s'ils étaient vraiment inguérissables, auraient en somme plus besoin des délices du ciel que les élus eux-mêmes. De deux choses l'une, ou les coupables peuvent être ramenés au bien. Alors, l'enfer prétendu ne sera pas autre chose qu'une immense école où l'on tâchera de dessiller les yeux de tous les réprouvés et de les faire remonter le plus rapidement au ciel. Ou les coupables sont incorrigibles comme des maniaques inguérissables, ce qui est absurde, alors ils seront aussi éternellement à plaindre, et une bonté suprême devra tâcher de compenser leur misère par tous les moyens imaginables, par la somme de tous les bonheurs sensibles. De quelque façon qu'on l'entende, le dogme de l'enfer apparaît ainsi comme le contraire même de la vérité. Au reste, en damnant une âme, c'est-à-dire en la chassant pour jamais de sa présence, ou en termes moins mystiques, en l'excluant pour jamais de la vérité, Dieu s'exclurait lui-même de cette âme, limiterait lui-même sa puissance, et pour tout dire, se damnerait aussi dans une certaine mesure. La peine du damné retombe sur celui-même qui l'inflige. Quant à la peine du sens, que les théologiens en distinguent, elle est évidemment bien plus insoutenable encore, même si on la prend en un sens métaphorique. Au lieu de damner, Dieu ne peut qu'appeler éternellement à lui ceux qui s'en sont écartés. C'est surtout pour les coupables qu'il faudrait dire avec Michel-Ange que Dieu ouvre tout grand ses deux bras sur la croix symbolique. Nous nous le représentons comme regardant tout de trop haut, pour qu'à ses yeux, les réprouvés soient jamais autre chose que des malheureux. Or, les malheureux ne doivent-ils pas être en tant que tels, sinon sous les autres rapports, les préférés de la bonté infinie? Deuxième point, sanction d'amour et de fraternité. Jusqu'ici, nous avons considéré comme liés les deux aspects de la sanction, châtiment et récompense. Mais peut-être est-il possible de les considérer à part l'un de l'autre. Certains philosophes, par exemple, semblent disposés à rejeter la récompense proprement dite et le droit à la récompense pour n'admettre comme légitime que le châtiment. Cette première position est, croyons-nous, la plus difficile que l'on puisse prendre dans l'examen de la question. Il en est une seconde, tout opposée, où un autre philosophe s'est placé et que nous devons examiner pour être complet. Rejeter tout à fait le châtiment, s'efforcer pourtant de maintenir un rapport rationnel entre le mérite et le bonheur. Cette doctrine renonce à l'idée kantienne qui fait du mérite la conformité à une loi toute formelle. L'univers est représenté comme une immense société où tout devoir est toujours un devoir envers quelqu'un d'actif, de vivant. Dans cette société, celui qui aime doit être aimé. Quoi de plus naturel ? Dire que l'homme vertueux mérite le bonheur, c'est dire que toute bonne volonté lui veut du bien, en retour du bien qu'il a voulu. Le rapport du mérite au bonheur devient alors un rapport de volonté à volonté, de personne à personne, un rapport de reconnaissance et conséquemment de fraternité et d'amour moral. Ainsi, dans l'idée de retour et de reconnaissance, on trouverait le lien cherché entre la bonne action et le bonheur. L'amabilité, tel serait le principe nouveau de la sanction. Principe qui, tout en excluant le châtiment, suffirait à justifier une sorte de récompense, non matérielle, mais morale. Remarquons-le, cette sanction n'est pas valable pour un être que, par hypothèse, on considérerait comme absolument solitaire. Mais, suivant la doctrine que nous examinons, il n'existe nulle part d'être semblable. On ne peut pas sortir de la société parce qu'on ne peut pas sortir de l'univers. La loi morale n'est donc, au fond, qu'une loi sociale. Et ce que nous avons dit des rapports actuels entre les hommes vaut aussi pour les rapports idéaux de tous les êtres les uns avec les autres. À ce point de vue, la récompense devient une sorte de réponse d'amour. Toute bonne action ressemble à un appel adressé à tous les êtres du vaste univers. Il paraît illégitime que cet appel ne soit pas entendu et que l'amour, infécond, ne produise pas la reconnaissance. L'amour suppose la mutualité de l'amour, conséquemment la coopération et le concours, conséquemment la satisfaction de la volonté et le bonheur. Quant au malheur sensible d'un être, il s'expliquerait dans cette doctrine par la présence de quelque volonté aveugle s'élevant contre lui du sein de la nature, du sein de la société universelle. Or, si, par hypothèse, un être est vraiment aimant, il deviendra aimable non seulement aux yeux des hommes, mais aux yeux de toutes les volontés élémentaires qui constituent la nature. Il acquerra ainsi une sorte de droit idéal à être respecté et aidé par elle, conséquemment à être heureux par elle. On peut considérer tous les maux sensibles, souffrance, maladie, mort, comme provenant d'une sorte de guerre et de haine aveugle des volontés inférieures. Lorsque cette haine prend pour victime l'amour même, nous nous en indignons. Et quoi de plus juste ? Si l'amour d'autrui ne doit être payé qu'avec de l'amour, nous avons du moins la conscience qu'il doit l'être avec celui de la nature tout entière, non pas seulement avec celui de tel ou tel individu. Cet amour de la nature, ainsi universalisé, deviendra pour celui qui en est l'objet le bonheur, y compris même le bonheur sensible. Le lien entre la bonne volonté et le bonheur, que nous voulions briser, sera de nouveau rétabli. Cette hypothèse, nous en convenons, est la seule et dernière ressource pour justifier métaphysiquement le sentiment empirique d'indignation que produit en nous le mal sensible lorsqu'il accompagne la bonne volonté. Seulement, remarquons bien ce qu'enveloppe l'hypothèse. Il faut en venir, dans cette doctrine, à admettre sans preuve que toutes les volontés qui constituent la nature sont d'essence et de direction analogues, de manière à converger vers le même point. Si le bien que poursuit par exemple une société de loups était, dans le fond des choses, aussi différent du bien poursuivi par la société humaine qu'il semble l'être en apparence, la bonté d'un homme n'aurait rationnellement rien de respectable pour celle d'un loup, ni celle d'un loup pour un homme. Il faut donc compléter l'hypothèse précédente par cette autre, bien séduisante et bien hasardeuse, que nous avons ailleurs exprimée nous-mêmes comme possible. À l'évolution extérieure, dont les formes sont si variables, ne correspondrait-il pas une tendance, une aspiration intérieure, éternellement la même et travaillant tous les êtres? N'y aurait-il pas en eux une connexion de tendances et d'efforts analogues à la connexion anatomique signalée par Geoffroy Saint-Hilaire dans les organismes? Selon cette doctrine, l'idée de sanction vient se fondre dans l'idée plus morale de coopération. Celui qui fait le bien universel travaille à une œuvre si grande qu'il a idéalement droit au concours de tous les êtres, membres du même tout, depuis la première monère jusqu'à la cellule cérébrale de l'organisme le plus élevé. Celui qui fait le mal, au contraire, devrait recevoir de tous un refus de concours, qui serait une sorte de punition négative. Il se trouverait moralement isolé, tandis que l'autre serait en communion avec l'univers. Ainsi restreinte, épurée, sauvée par la métaphysique, cette idée d'une harmonie finale entre le bien moral et le bonheur devient assurément admissible. Mais, en premier lieu, ce n'est plus vraiment la sanction d'une loi formelle. Tout ce qui restait des idées de loi proprement nécessaires ou impératives, de sanctions également nécessaires, a disparu. Ce n'est plus même la loi formelle de Kant, ni le jugement synthétique a priori par lequel la légalité serait unie à la félicité comme récompense. En un mot, ce n'est plus un régime de législation, conséquemment de vraies sanctions. Nous pouvons même dire qu'on nous transporte ici dans une région supérieure à celle de la justice proprement dite. C'est la région de la fraternité. Ce n'est plus la justice commutative, car l'idée de fraternité exclut celle d'un échange mathématique, d'une balance de services exactement mesurables et égaux sous le rapport de la quantité. La bonne volonté ne mesure pas son retour à ce qu'elle a reçu. Elle rend 2 et même 10 pour 1. Ce n'est même plus de la justice distributive au sens propre, car l'idée d'une distribution exacte, même morale, n'est plus celle de la fraternité. L'enfant prodigue pourra être fêté plus que l'enfant sage. On pourra aimer un coupable, et le coupable aura peut-être plus besoin que tout autre d'être aimé. J'ai 2 mains, l'une pour serrer la main de ceux avec qui je marche dans la vie, l'autre pour relever ceux qui tombent. Je pourrais même, à ceux-ci, tendre les 2 mains ensemble. Ainsi, dans cette sphère, les rapports purement rationnels, les harmonies purement intellectuelles, à plus forte raison les rapports légaux, semblent s'évanouir. Par cela même, s'évanouit le rapport vraiment rationnel, logique et même quantitatif qui relierait la bonne volonté à une proportion déterminée du bien extérieur et d'amour intérieur. De là résulte une sorte d'antinomie. L'amour est ou une grâce particulière et une élection qui ne ressemble guère à une sanction, ou une sorte de grâce générale et une égalité idéale étendue à tous les êtres qui ne ressemble pas davantage à une sanction. Si j'aime plus un homme qu'un autre, il n'est pas certain que mon amour soit en raison directe de son mérite. Et si j'aime tous les hommes dans leur humanité, si je les aime universellement, également, la proportion semble disparaître encore entre le mérite et l'amour. D'ailleurs, les bonnes volontés elles-mêmes ne voudraient pas, sans doute, dans l'idéal justice, être l'objet d'aucune marque de préférence. Les victimes volontaires de l'amour n'accepteraient pas d'être placées en rien avant les autres lors d'une redistribution quelconque des biens sensibles. Elles objecteraient qu'après tout, la souffrance volontaire est moins à plaindre que la souffrance imposée. Pour qui admet la supériorité de l'idéal sur la réalité, l'homme de bien est le riche, même quand cette richesse suprasensible a présenté pour lui des inconvénients et des peines sensibles. Telles sont les difficultés que soulève, croyons-nous, cette théorie. Ces difficultés ne sont peut-être pas insolubles, mais leur solution sera à coup sûr une modification profonde apportée à l'idée traditionnelle de sanction. Car, pour ce qui est de la peine, le châtiment aura disparu. Et pour ce qui est de la récompense, la compensation de pure justice semblera s'évanouir dans des relations supérieures de fraternité, échappant à des déterminations précises. D'une part, le mal sensible, y compris la mort, nous indigne toujours moralement, quel que soit le caractère bon ou mauvais de la volonté qu'il vient entraver. La souffrance nous choque en elle-même et indépendamment de son point d'application. Une distribution de souffrance est donc moralement inintelligible. D'autre part, en ce qui concerne le bonheur, nous voulons que tout soit heureux. Ces notions apportent un grand trouble dans la balance de la sanction. La proportionnalité, la rationalité, la loi, nomos, ne sont applicables qu'à des relations d'ordre et d'utilité sociale, de défense et d'échange, de commutation et de distribution mathématique. La sanction proprement dite est donc une idée toute humaine. En somme, les utilitaires et les kantiens, placés aux deux pôles opposés de la morale, sont pourtant victimes de la même erreur. L'utilitaire, qui sacrifie si peu que ce soit de son existence, par l'espoir de voir un jour ce sacrifice lui rapporter quelque chose, dans l'au-delà de la vie, fait un calcul irrationnel à son point de vue, car, dans l'absolu, il ne lui est dû pour son dévouement intéressé rien de plus qu'il ne lui serait dû pour une mauvaise action intéressée. D'autre part, le kantien qui se sacrifie les yeux fermés pour la loi seule, sans rien calculer, sans rien demander, n'a pas non plus de droit véritable à une compensation, à une indemnité. Il est rationnel que, quand on ne vise pas à un but, on y renonce. Et le kantien ne vise pas au bonheur. Nous objectera-t-on que, si la loi morale nous oblige, elle est elle-même tenue à quelque chose envers nous? Dira-t-on qu'il peut y avoir un recours de l'agent contre la loi? Que si, par exemple, la loi exige, sans compensation, l'anéantissement du moi, elle est la suprême cruauté? Une loi cruelle est-elle juste? Nous répondrons qu'il faut distinguer ici entre deux choses. Les circonstances fatales de la vie et la loi qui règle notre conduite dans ces circonstances. Les conjonctures fatales de la vie peuvent être cruelles, accusez-en la nature. Mais une loi ne peut jamais apparaître comme cruelle à celui qui croit à sa légitimité. Celui qui considère toute souillure comme un crime ne peut pas trouver cruel de rester chaste. Pour qu'il croie en une loi morale, il est impossible de juger cette loi en se plaçant à un point de vue humain, puisqu'elle est, par hypothèse, inconditionnelle, irresponsable, et est censée nous parler du fond de l'absolu. Elle ne fait pas avec nous un contrat où nous puissions débattre tranquillement les clauses, mettre en balance les avantages et les inconvénients. Au fond, même dans la morale kantienne, la sanction n'est qu'un suprême expédient pour justifier rationnellement et matériellement la loi formelle de sacrifice, la loi morale. On ajoute la sanction à la loi pour la légitimer. La doctrine des Kantiens, poussée à ses dernières conséquences, devrait plutôt aboutir logiquement à une complète antinomie entre le pur mérite moral et l'idée d'une récompense ou même d'une espérance sensible quelconque. Elle devrait pouvoir se résumer dans cette pensée d'une femme d'Orient que nous rapporte le sire de Joinville. Yves, frère prêcheur, vit un jour à Damas une vieille femme qui portait à la main droite une écuelle de feu et à la gauche une fiole pleine d'eau. Yves lui demanda « Que veux-tu faire de cela ?» Elle lui répondit qu'elle voulait avec le feu brûler le paradis et avec l'eau éteindre l'enfer. Et il lui demanda « Pourquoi veux-tu faire cela ?»« Parce que je ne veux pas que nul fasse jamais le bien pour avoir la récompense du paradis, ni par peur de l'enfer, mais simplement par amour de Dieu. » Une chose paraîtrait concilier tout. Ce serait de démontrer que la vertu enveloppe analytiquement le bonheur. Que choisir entre elle et le plaisir, c'est encore choisir entre deux joies, l'une inférieure, l'autre supérieure. Les stoïciens le croyaient, Stuart Mill aussi, et Épicure lui-même. Cette hypothèse peut se vérifier sans doute pour un petit nombre d'âmes élevées, mais sa complète réalisation n'est vraiment pas de ce monde. La vertu n'est point ici-bas à elle-même une parfaite récompense sensible, une pleine compensation. Premium ipsa virtus. Il y a peu de chances pour qu'un soldat qui tombe frappé d'une balle aux avant-postes éprouve, dans le sentiment du devoir accompli, une somme de jouissance équivalente au bonheur d'une vie entière. Reconnaissons-le donc, la vertu n'est pas le bonheur sensible. Bien plus, il n'y a pas de raison naturelle et il n'y a pas non plus de raison purement morale pour qu'elle le redevienne plus tard. Aussi, lorsque certaines alternatives se posent, l'être moral a le sentiment d'être saisi dans un engrenage. Il est lié, il est captif du devoir. Il ne peut se dégager et n'a plus qu'à attendre le mouvement du grand mécanisme social ou naturel qui doit le broyer. Il s'abandonne en regrettant peut-être d'avoir été la victime choisie. La nécessité du sacrifice, dans bien des cas, est un mauvais numéro. On le tire pourtant, on le place sur son front, non sans quelque fierté, et on part. Le devoir, à l'état aigu, fait partie des événements tragiques qui fondent sur la vie. Il est des existences qui y ont presque échappé. On les considère généralement comme heureuses. Si le devoir peut ainsi faire de réelles victimes, ces victimes acquièrent-elles des titres exceptionnels à une compensation sensible, des titres au bonheur sensible, supérieur à celui des autres malheureux, des autres martyrs de la vie? Il ne le semble pas. Toute souffrance, involontaire ou voulue, nous apparaît toujours comme appelant une compensation idéale, et cela uniquement parce qu'elle est une souffrance. Compensation, c'est-à-dire balancement, est un mot qui indique un rapport tout logique et sensible, nullement moral. De même pour les mots de récompense et de peine qui ont le même sens. Ce sont des termes de la langue passionnelle transportés mal à propos dans la langue morale. La compensation idéale des biens et des mots sensibles est tout ce qu'on peut retenir des idées vulgaires sur le châtiment et la récompense. Il faut se rappeler que la Némésis antique ne châtiait pas seulement les méchants, mais aussi les heureux de la vie, ceux qui avaient eu plus que leur part de jouissance. De même, le christianisme, dans les temps primitifs, considérait les pauvres, les infirmes d'esprit ou de corps, comme ceux qui avaient le plus de chance d'être un jour les élus. L'homme riche de l'Évangile est menacé de l'enfer sans autre raison apparente que sa richesse même. Les premiers seront les derniers. Aujourd'hui encore, ce mouvement de bascule dans la grande machine du monde nous paraît désirable. L'idéal semblerait l'égalité absolue de bonheur entre tous les êtres, quels qu'ils fussent. La vie, au contraire, est une consécration perpétuelle de l'inégalité. La majeure partie des êtres vivants, bons ou mauvais, pourrait donc prétendre dans l'idéal à une réparation, à une sorte de balance des joies, à un nivellement universel. Il faudrait aplanir l'océan des choses. Que cela ait jamais lieu, aucune induction tirée de la nature ne peut le faire supposer, tout au contraire. Et d'autre part, d'aucun système moral, on ne peut tirer, par une déduction rigoureuse, la reconnaissance d'un véritable droit moral à une telle compensation de la peine sensible. Cette compensation, désirée par la sensibilité, n'est nullement exigée par la raison. Elle est tout à fait douteuse pour la science, peut-être même impossible.